Je suis encore pour quelque temps, mais pas bien longtemps. Je suis adhérent et responsable, mais bénévole, hein, d'une association d'éducation populaire qui s'appelle l'Amicale Laïque du Crédroc. C'est une vieille association traditionnelle qui a rencontré l'enjeu environnemental, on va dire en gros, dans les années 2006-2007. En travaillant avec des enfants sur les questions de jardinage, d'insectes. Et puis, à cette époque-là aussi, on a créé une AMAP. Voilà. Qui était la première de Saint-Étienne Métropole et qui a rencontré un grand succès. Et maintenant, il y en a 22 dans Saint-Étienne Métropole. Donc, voilà, c'est des choses comme ça. Et en fait, cette AMAP... a joué un grand rôle parce que ça a donné à plein de gens l'idée de s'organiser, de faire des choses simples, basées sur un engagement, je dirais, à portée de main quand même. Hein. C'est-à-dire pas trop lourd non plus. Bon, la MAP, je vous connaissez, hein, c'est circuit court, paysan, contrat, etc. Bon. Dans le même temps... il s'est passé pas mal de choses. Alors, le quartier était depuis quelques années déjà dans une très grosse rénovation. C'est un quartier très, très dégradé. Et donc, il fallait tout refaire, quoi. L'habitat, démolir, réhabiliter, reprendre des espaces publics. C'était vraiment un énorme... C'est encore pas fini. Hein. Et donc, il se passait plein de choses. Beaucoup de friches. Et sur l'une de ces friches, un architecte qui habite le quartier, qui s'appelle Franck Lemaille, a proposé de faire une opération d'urbanisme, de logements très bien isolés, tout ça, c'est-à-dire de faire un éco-quartier quoi, avec des systèmes spécifiques pour recueillir l'eau pluviale, pour capter le chauffage, enfin le soleil, tout ça, pour chauffer le logement. Enfin, un éco-quartier, oui. Et puis, donc, il a aussi suscité dans cette... une opération de, je crois, une centaine de logements. Il a suscité, lui, sur une parcelle, la constitution d'une coopérative d'habitants qui a créé des logements d'architecture passive. C'est-à-dire quelque chose qui va très, très loin, hein, dans le... Une opération, on va dire, quand même d'avant-garde, hein, je crois. Et donc, elle est réalisée maintenant. C'est 13 familles, quoi, qui ont réalisé leur logement coopérative, sans aucun promoteur. Hein. Donc, voilà. En même temps, nous, l'association, on a été sollicités par un service de la ville... par un responsable du service jardin, espace vert, qui, voilà, se disait, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses dans les friches ? Alors, nous, on a créé un jardin partagé dans une friche, c'est-à-dire à la place de l'immeuble démoli. Avec l'idée... c'est mieux que de laisser un terrain vague qui devient systématiquement une déchetterie de proximité. En fait, c'est tout des choses très simples hein, qui se sont mises en route. Alors, à partir de ces jardins partagés, après, il y a eu toute une réflexion sur... est-ce qu'il ne faut pas introduire dans le temps très long de l'aménagement très lourd un autre projet qui avance à un autre rythme, qui est au rythme du temps, de la vie quotidienne, et qui remplace toute cette panoplie de vocabulaire tel que friche, etc., par autre chose, c'est-à-dire qu'un espace où, en attendant d'y construire un immeuble, on fait quelque chose, on fait un espace public, on invente quelque chose, et en somme, il y a un projet dans le projet... Et le projet du temps de la vie, quoi, il est porté au rythme et avec les moyens des habitants, de leurs associations, donc c'est forcément des solutions très économiques. Et on s'est aperçu que les solutions très économiques, elles n'étaient quand même pas inintéressantes. Même certains responsables de la société d'aménagement se sont dit, mais bon sang, au jardin, alors on les appelait des jardins éphémères, mais ils pouvaient rester 4 ou 5 ans, et quelquefois plus. Parce que le marché du logement va très mal à Saint-Étienne, donc on démolit, on met un panneau, ici il va y avoir bientôt 20 logements, et puis voilà, ça peut durer 3, 4, 5, 6, 8, 10 ans. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce que ça c'est une friche? Ou bien si c'est pas une manière de gérer la ville, quoi, et son développement, ou du moins sa transformation sur elle-même, ce dont on parle beaucoup. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui ont eu des idées, et on s'est aperçu qu'il était intéressant de trouver des solutions simples, économiques, à portée de main des habitants, donc avec des technologies très simples. Hein. Beaucoup de matériaux de récupération, du coup, recyclage. Et puis alors, on a appelé ça un petit peu l'espace mouvement, c'est-à-dire par rapport au cadre, on veut toujours faire des aménagements définitifs, sacrés, faits par un génie, enfin, par un artiste qui se croit, enfin, qui se dit super bon. Ça ne dure pas forcément longtemps, il n'est pas forcément très bon. Mais enfin, les gens préfèrent, les habitants préfèrent des choses qui bougent, qui se transforment. Voilà. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la conclusion que l'aménagement devait, des espaces publics devait quand même prendre en compte le fait que. On doit pouvoir faire bouger les choses. Voilà. La ville, ça ne doit plus être ce décor figé qui transforme l'habitant en spectateur, usager, quoi, usager-spectateur, mais est-ce que il ne vaudrait pas mieux que les gens fassent évoluer au rythme où ils l'entendent, chaque fois qu'ils en ont envie, certains aspects de l'espace, quoi. Comme ils le font d'ailleurs dans leur logement. Comme ils le font quand ils se mettent à bricoler. Voilà, c'est-à-dire que nous, ce qu'on sent, c'est que il faut aller quand même vers de nouvelles conceptions du design et de l'architecture et de l'aménagement qui permettent à beaucoup de gens de rentrer dans le projet lui-même. Voilà, pour y intervenir. Pas seulement pour donner un avis. Hein. Alors après, ça pose des tas de problèmes. Culturel, de formation, tout ce qu'on veut. Et ça pose notamment énormément de problèmes de réglementation, parce que toute la réglementation, tout le système de garantie, tout le système de sécurité est basé sur le fait que tout doit être fait par des super professionnels, qui appliquent des normes absolument draconiennes, et puis il ne faut pas toucher. Voilà. Alors. L'intérêt de notre truc, d'avoir travaillé dans des friches, sur des espaces temporaires, c'est qu'on était hors réglementation et qu'on a pu faire plein de trucs où jamais personne ne s'est blessé, où aucun enfant ne s'est assommé, et voilà, et qui marchent. Et alors surtout, qui sont extrêmement économiques. Voilà.
Ces friches, en termes de propriété, elles appartenaient à la ville ?
Alors, les friches appartenaient plutôt à la société d'aménagement. Donc à la ville, au fait qu'il y avait délégué l'aménagement à la SEDL, qui est une société d'économie mixte, hein, classique, hein, qui nous mettait les terrains à disposition. Alors il y avait une convention, hein, on avait trouvé... Bon, on n'était pas des... On n'est pas des... Comment ? On ne squatte pas, nous. Okay. On demande. On préfère... C'est long. On essaie de transformer le enfin de demander au contexte institutionnel extrêmement dur, réglementaire, d'ouvrir un petit espace de liberté temporaire, par contre. Après, quand le projet définitif de construction ou d'aménagement urbain, tout rentre dans l'ordre, avec quand même quelques interrogations. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, maintenant, ben oui, il faut peut-être prévoir un coin quand même où les enfants pourront dessiner des jeux au sol, où on pourra construire une cabane, mais pas beaucoup quand même. L'idée de l'espace public urbain super encadré, très réglementé, elle est très puissante en France. Et puis alors, là aussi, il y a un alibi sociologique qu'on nous a beaucoup ressorti, que personnellement je trouve très discutable. C'est l'espace public, il appartient forcément à la bureaucratie de l'État et de la ville ou autre. Sinon, c'est un groupe qui va le privatiser pour son propre usage. Voilà, c'est-à-dire que finalement, ben, y a que les services, il n'y a que l'État, la ville avec ses services qui peuvent intervenir. C'est eux qui sont légitimes pour représenter l'intérêt général. Le reste, qu'est-ce que c'est que ce groupe? C'est des bobos, c'est qui? Voilà, ils disent qu'ils veulent participer, mais en fait, ils pensent qu'à eux et ils vont chasser les autres. C'est faux, hein, ça. C'est faux, ça, parce que le groupe engagé qui s'est formé dans le quartier sont, oui, souvent des gens qualifiés, pas forcément riches, d'ailleurs rarement, mais qui tiennent à partager leur talent avec leurs voisins. Donc, il y a envie d'emmener les autres, de partager tout ça. Voilà. Donc, ça, en gros, c'est ça la philosophie de la chose. Donc, habitat à la coopérative, services, des espaces extérieurs, tout ça. Ça a marqué, hein, ça a marqué l'imaginaire du quartier, ça, et son identité. Beaucoup sont opposés à ça. Alors, tous les habitants ne souhaitent pas participer. Il y a des habitants qui disent, là, bon, surtout les gars de ma génération, là, on paye les impôts. Moi, je ne veux rien savoir, ils se débrouillent. Je veux que ce soit propre, nickel, pas de délinquance, bien surveillé, tout ça. Voilà, c'est fort, ça, par contre. Gauche-droite, hein, d'ailleurs, hein, pas forcément. Après, il y a un tiers, ben, qui a plus le temps de s'occuper de rien. Et puis, il y a un tiers qui souhaite quand même. Je vois un peu ces trois grands. Trois grandes parties, quoi. Trois grandes. Type d'habitants, mais quand même, je pense que ceux qui veulent, qui ont potentiellement la volonté d'intervenir, à condition de pouvoir le faire aussi, hein, et s'il faut que des bulldozers de partout, des pelleteuses de 50 tonnes, des trucs comme ça, et de la super technologie, ils touchent pas, quoi, ils peuvent pas, mais s'ils peuvent, ils le font.